Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
L'interview du jour.
Comme t'es libre,
ici Erdiwa pour l'interview. Émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio aujourd'hui, un trio présent qui s'intitule collectif La Vulva. Hein. Ça s'écrit Vulva hein, oui. Quand même. Et donc, il y a Margot, bonjour.
Salut.
Betsabé.
Bonjour.
Et Elena, bonjour.
Enchantée.
Alors, toutes les trois, vous êtes ici pour nous annoncer une date ce mercredi 15 mai à 20h30 à la Forge d'Auguste, à Die. Et vous proposez quoi ?
La toute première performance de notre collectif. Voilà, nous, on a un collectif de cueilleuses anarchistes. Libertaire, et on a eu l'envie, en dehors de nos cueillettes, de parler un peu plus au nom des femmes et voir ce qu'on pouvait, comment on pouvait transmettre un message tant de connaissances des plantes médicinales que de parler aussi de toute une sphère féminine qui est des fois pas toujours exposée. Voilà. Donc on va parler au nom de ces femmes.
Et ça va consister en quoi pour cette soirée ?
Alors du coup, on a envie de présenter des plantes médicinales, donc surtout, comme le disait Betsabé, autour de la sphère féminine, mais pas que. On a envie de sensibiliser les gens en leur transmettant des plantes qu'ils vont eux-mêmes devoir transmettre à d'autres personnes. Donc voilà, expliquer à quoi ces plantes servent, leur transmettre, et voilà, ils auront une durée pour choisir une autre personne qui en a besoin. Et la difficulté qu'on a rencontrée, c'est qu'on avait envie d'inclure beaucoup de sujets politiques dans ce spectacle et aussi de la poésie. Et que nous, on ne vient pas du milieu du théâtre à la base. Donc voilà, on a vraiment travaillé un spectacle à la fois didactique et poétique autour du savoir et de la transmission du savoir autour des plantes.
Alors comme vous le dites, vous venez pas du milieu du spectacle et du théâtre, mais vous venez d'où ? Alors je vais commencer par Margot. D'où vous venez ?
Alors je viens du nord, de Lille, et on est encore étudiante, donc on apprend en ce moment, surtout autour des plantes, et cette façon un peu d'étudier en France nous paraît... très stricte, et on aimerait un petit peu plus sortir de ce cadre pédagogique. C'est pour ça qu'on propose cette formule un peu de spectacle et de transmission de savoir par cette forme-là. Donc voilà par où on passe et ce qu'on veut proposer un peu aux gens.
Quand tu dis que les formations sont un peu strictes en France, tu peux peut-être approfondir ton propos ?
Ça a été déjà assez difficile de trouver une formation qui propose la connaissance des plantes en France. C'est un milieu qui est assez fermé parce que l'herboristerie a été interdite en 1961. Donc il y a des vieux herboristes qui existent encore sur place, mais vraiment d'apprendre et de se lancer dans cette profession, c'est assez fermé en France. Donc il y a beaucoup de choses qui existent à l'étranger, au Québec, en Belgique. Nous, on a eu de la chance d'avoir une super formation à Bayeul qui n'est pas trop chère. Donc pour la vulva, ça fait beaucoup de déplacements, c'est sûr. Mais ce qui nous a plus gênés, c'est toujours cette forme de personne qui a le savoir et qui va le donner, transmettre très frontalement par le biais d'un amphithéâtre, par le biais de diapositives sur PowerPoint. Et voilà, nous, on veut un petit peu sortir de ça parce qu'on veut parler de nos expériences de vie. Voilà.
Ensuite, je passe à Betsabé. D'où viens-tu ?
Je viens de Paris, mais j'ai beaucoup bougé. Et moi j'étais plasticienne, j'étais danseuse, j'ai eu pas mal de travail autour du corps. Donc c'était quand même, c'est le fil conducteur dans mon travail et dans ma recherche, il est autour du corps. Et les plantes ont toujours été quelque chose comme une note de fond. Et avec ces études-là, moi j'ai voulu aussi les mettre devant. Et ensuite, en étudiant les plantes, effectivement, il y avait ce côté très chimique et qui était très intéressant à prendre. Et ensuite, c'était comment transmettre, comment partager, comment réunir, comment créer des sororités, comment se rassembler, comment rendre politique aussi notre diffusion de ce savoir et de ce partage. Ouais.
Elena ?
Alors, moi, du coup, je viens de la Creuse. Et je vis en ce moment à Paris, j'ai une vie très très mouvante et j'ai vécu dans une ferme aussi dans le nord de la France, dans des lieux collectifs où j'organisais aussi des concerts avec d'autres personnes. Je viens aussi de la photo, donc j'ai plutôt évolué dans des milieux artistiques en règle générale. Ce qui m'a amené aux plantes, je pense que c'était l'envie d'être autonome en fait, dans ma manière de me soigner et de ne pas dépendre trop de pharmacie ou de, voilà, d'essayer de faire un peu les choses à ma manière. Et voilà, je pense qu'il y a de très belles choses à faire entre art et plantes. Je pense qu'il y a un truc commun qui me parle.
Et de là, vous vous êtes retrouvés pour créer le collectif La Vulva. Qu'est-ce qui a motivé cette réunion entre vous ?
Une affinité.
Alors, ouais.
Il nous manque
peut-être un peu de whisky, de bière. Non.
On s'est dragué pendant les cours.
L'envie, tout d'abord, je pense, d'écrire une brochure, en fait. À la base, c'était vraiment une brochure. On s'est dit, ah, on a vraiment envie de partager du savoir sur des plantes, plutôt gynécologiques, parce que, voilà. Puis, en fait, je pense qu'on a eu cette envie-là et qu'en fait, on a constaté qu'il y avait énormément de choses déjà un peu faites, donc énormément de matière, même s'il y a toujours des choses à faire, hein, mais... Et ça nous a aussi donné envie de passer peut-être par d'autres biais, de faire plus des actions, voilà, donc de partir en cueillette. C'est Betsabé qui nous avait proposé de partir en Corse pour faire des cueillettes. Et là, on s'est dit, bah, ok, on va récolter des plantes et puis on va faire un petit stock de plantes et on va les partager à prix libre. Donc voilà, ça a été un peu du tac au tac, mais c'était vraiment le point de départ était vraiment cette brochure.
Oui.
Alors le titre La Vulva, qu'est-ce que vous voulez signifier avec le nom de ce collectif ?
Il y a quelque chose de joyeux dans La Vulva en fait. Le fait de le dire en espagnol, il y a quelque chose déjà un peu, je sais pas, c'est une soirée cumbia quoi déjà. C'est... on a déjà envie de... En fait, donc voilà, c'était notre révolte, elle est vraiment joyeuse. Et on voulait vraiment partir sur un aspect très positif de dire, ok, on est féministe et c'est très beau parce que c'est joyeux, en fait, parce que c'est vraiment un cri d'amour, d'avoir envie d'aimer les hommes, d'aimer les femmes, d'aimer tout le monde. Et que notre démarche, je pense, même en règle générale, politiquement, c'est une révolution très heureuse. Et voilà, je pense que c'était... Ce La Vulva, c'est comme un cri, il a quelque chose d'un peu... Il est charmant, enfin, on le trouvait charmant.
Il est voilà. Vulvique.
Vous êtes toutes d'accord avec ce que vient d'énoncer Betsabé ? Vous n'avez rien à rajouter, Margot ?
Complètement d'accord,
je te casse la gueule.
Elena ? On peut parler un peu de l'herboristerie, puisque ça, c'est un domaine qui vous tient à cœur. C'est quoi ? C'est de se réapproprier soi-même le soin de son corps qui vous a amené à adopter l'herboristerie ?
La connaissance de soi, de son corps, redécouvrir les choses par soi-même. C'est pas forcément ce que nous propose notre médecin par leur formule allopathique. Vous avez tel symptôme, on vous propose tel médicament. Donc vraiment, passer par soi-même, savoir ce qu'on ressent quand on a telle maladie. Donc savoir s'écouter et puis savoir aller chercher l'information aussi, surtout. Et trouver des alliés. Des alliés et des personnes qui connaissent les plantes, ça c'est important parce qu'en fait, elles sont présentes partout, elles sont dans la nature, elles sont au coin de la rue. Même en ville, on peut les trouver maintenant. Enfin, c'est vraiment accessible et c'est vraiment une connaissance à développer pour être autonome. Hein. Je rejoins Elena là-dessus. C'est vraiment une recherche d'autonomie.
Puis on se rend bien compte qu'en fait, il y a énormément de plantes qui sont en vente dans les pharmacies et c'est tout à fait possible en fait d'aller les acheter en bio, dans une pharmacie. Mais c'est aussi possible de les ramasser, sauf qu'on n'a plus ces connaissances. Et je crois que ce qui est fondamentalement important qu'on oublie, c'est quand on soigne, on ne va pas chercher à savoir à quoi ressemble cette plante et si elle nous inspire. Si on n'aime pas déjà une... Enfin, si on prend une plante sans savoir à quoi elle ressemble, ça me semble assez étrange parce que c'est aussi une rencontre et je pense que le fait de se soigner par les plantes ou par d'autres biais, en tout cas que l'allopathie classique qui peut être utilisée, ça fait pour autre chose, hein, mais c'est aller à la rencontre d'autres choses et chercher de la sensibilité dans d'autres formes, en fait. Voilà.
Oui, une grande charge émotionnelle dans les plantes. Enfin, même sans être trop ésotérique, c'est vraiment... la plante, généralement, elle va prendre en charge aussi une partie émotionnelle du corps. Et en fait, le corps, quand il est malade ou quand il est en souffrance ou quand il est en faiblesse, il parle aussi d'autre chose et la plante a une finesse, une subtilité que aucune molécule peut rattraper ou remplacer. Et ensuite, oui, nous on aimerait aussi pouvoir partager des balades, des cueillettes ensemble parce qu'il y a aussi, on est très attaché à ces plantes sauvages parce qu'elles sont dans leur milieu, elles sont à l'endroit où elles doivent être, elles sont dans une terre qui leur fait du bien, elles ont décidé d'être là. et que c'est beau aussi d'être à l'écoute du territoire où on est. Et puis du coup, nous aussi, en se baladant encore, c'est d'interroger les gens qui ont aussi un rapport à ces plantes. Et nous, c'est un bonheur aussi d'entendre les superstitions même de certains.
De Jacqueline.
De Jacqueline, entre autres, de Coventou.
Et pour ça, vous avez reçu donc, un enseignement sur les plantes, comment les reconnaître, et puis leur posologie, on dit.
Oui.
Alors les posologies, du coup, en herboristerie, c'est toujours un grand mystère, un truc très très vaste. Il y a des posologies comme ça de base, mais je pense qu'en fonction des personnes, en fonction des poids, en fonction des sexes, ça varie tout le temps. Je pense qu'il faut vraiment tester. Et c'est ça le plus difficile, en fait, c'est que on peut nous apprendre qu'il y a des flavonoïdes dans je sais pas quoi, des substances chimiques, quelles sont les contre-indications, mais le meilleur moyen de reconnaître des plantes, c'est d'aller dans la nature et d'essayer de le faire. Enfin, c'est l'expérience, en fait. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur moyen et l'utilisation aussi. Donc, en fait, par exemple, pour moi, j'estime que je ne suis pas encore formée, qu'il me faudra toute une vie pour être formée aux appréhensions des plantes. Ou alors, il y en a avec qui j'ai dîné, il y en a d'autres avec qui j'ai eu des grosses histoires d'amour, mais...
Vous ne tomberiez pas dans le piège du héros de Into the Wild? Non.
Ah si, c'est possible.
Il nous a inspiré. Il nous a inspiré pour pas tomber dans le piège.
Ça vous a inspiré, ce film?
Ouais.
Bon, ouais.
Non, sans plus.
Moi, oui, beaucoup, ouais. Pour pas du tout se retrouver toute seule dans la nature. Hein. C'est son expérience est vraiment géniale, hein, sa recherche d'autonomie, tout ça. Après, il s'est planté, hein, c'était à peu de choses près.
Une subtile différence de plantes, oui, c'est ça.
Très très subtile, et ça, quand on est dans des milieux un petit peu alternatifs, où on recherche l'autonomie, on se dit ça tient à rien et il faut pas se planter.
Oui, puis il y a quelque chose de beau dans l'interdépendance aussi, finalement, c'est... Est-ce qu'il y a une volonté à tout prix, on ne cherche pas à s'isoler et à vivre de nos plantes, on cherche à partager avec les gens. Et du coup, on parlait pas mal d'écoféminisme ces derniers temps, puisqu'on est invité à un festival d'écoféminisme, donc on s'est réinterrogé sur la notion de l'écoféminisme. Et du coup, c'était aussi cette histoire d'interdépendance dont parle Murray Bookchin. C'est des choses qui nous tiennent à cœur aussi, la symbiose des plantes, et de dire, en fait, il y a un mycélium, il y a des choses qui sont en interdépendance. Et pas chercher l'autonomie, parce qu'en fait, le plus beau, c'est de partager entre nous, entre humains, en train de s'offrir des connaissances et s'offrir des... Enfin, de partager, ouais. Le partage, il est important, donc la dépendance, elle n'est pas à ce prix-là, quoi.
Donc, pour approfondir cette soirée du mercredi, vous allez partager, entre autres, vos connaissances des plantes, mais quoi d'autre ?
Nos textes.
Nos poésies, en fait, on a chacune écrit des choses, plus ou moins personnelles, des histoires, mais on n'a pas envie, je pense, d'en dire un peu trop, mais...
Mais ça a été, c'était délicat, c'était une grande expérience aussi d'écrire. Mm-hmm. Et parler de nous, ou parler d'autres femmes, mais dans lesquelles on pouvait tout à fait se retrouver, parce qu'il y a quelque chose entre les femmes qui est semblable, en fait.
C'est un spectacle pour tout sexe ?
Tout sexe. Tout sexe, tout âge, on n'a pas encore...
Ah ouais, en tout sexe surtout. On veut vraiment... oui, ça, on y tient énormément.
Mmh. On est aussi très porté, on a vraiment envie de... Enfin, moi, en tout cas, j'ai ces envies-là, je pense que les filles aussi, de donner aussi envie aux hommes, en fait, de s'intéresser à des choses comme ça, parce qu'on trouve énormément de choses, par exemple, en plantes gynécologiques, et pas vraiment pour les hommes, moins en tout cas. En tout cas, on est moins renseignés. Et du coup, bien sûr que c'est un spectacle tout sexe, parce que c'est des sujets qui concernent tout le monde, en fait. Le fait d'avorter, en fait, peut-être on avorte à deux, je pense, même si, voilà, il y a...
Ah oui.
Voilà, donc on va aborder un peu des sujets...
Et l'accouchement, enfin, tous ces sujets, en fait, c'est vrai que c'est des sujets d'humanité, enfin, c'est pas des sujets genrés. Et qu'au contraire, plus on décloisonnera le genre, et plus on sera dans une possibilité d'échange les uns avec les autres et de s'apporter du bien aussi.
Alors quel est l'apport de l'herboristerie dans la gynécologie à laquelle vous vous consacrez ?
En fait, on se rend compte qu'il y a plein de plantes des femmes. C'est plus qu'on a été surpris, en fait, à chaque fois qu'on découvre une plante, de se dire « Tiens, celle-là aussi, elle intervient dans la sphère féminine. » En fait, Et puis aussi en regardant ce qui a été produit jusqu'au Moyen-Âge, où il y a ce fameux phénomène des sorcières qui étaient des guérisseuses, des avorteuses, des, des accoucheuses, enfin qui ont été beaucoup à l'écoute des femmes, parce qu'en fait il se trouve que le cycle du coup quand il est déréglé apporte beaucoup de faiblesse pour la femme, donc c'est pas anodin, son cycle est quelque chose de très présent dans sa vie. Donc beaucoup de plantes en fait qu'on rencontrait, on se disait ah celle-là c'est chouette parce qu'elle pousse là, alors du coup on peut la conseiller pour ça. Ensuite, pour en nommer quelques-unes, dans les, donc celles qu'on trouve partout, il y a l'Achillée millefeuille qu'on adore, il y a le Boursa pasteur, ensuite la sarriette, le thym, l'origan, enfin il y en a vraiment beaucoup qui sont tout autour de nous. Et ensuite, plus précisément, ensuite quand on a une question en face de nous qu'on peut peut-être y répondre ou essayer d'y répondre, et puis c'est-à-dire cette personnalité, elle est plus nerveuse et peut-être qu'elle serait plus adaptée avec cette plante. Et là encore, il y a quand même pas mal d'écrits en fait. Même si les sorcières ont été brûlées, tous les papiers ne l'ont pas été. Il y a Hildegarde, il y a quelques personnes qui ont... Il y a quelques savoirs qui ont été protégés. On tombe sur des textes interdits, heureusement, maintenant avec Internet aujourd'hui, c'est assez chouette.
Justement, ces textes, vous les trouvez sur Internet, mais est-ce que vous en cherchez autrement est-ce que cette démarche est fructueuse pour votre connaissance?
Alors oui, en fait, il y a énormément de références. Typiquement, après, des bouquins de gynécologie, de naturopathes, type Rinanissime, qu'on est obligé de citer, je pense. Et des mémoires aussi de femmes ou d'hommes qui ont pu faire des choses en pharmacie sur des sujets précis.
Beaucoup de choses qui viennent du milieu alternatif, avec des brochures à prix libre qu'on peut trouver, qu'on peut imprimer et puis proposer aussi un petit kiosque avec la lecture sur place. Il y a vraiment beaucoup de choses, c'est beaucoup de lectures, c'est beaucoup de temps à prendre et tous les jours on s'enrichit avec ça, je pense. Et c'est vraiment un savoir infini et même nous, on écrit une brochure aussi. Et je pense qu'on ne va pas s'arrêter à une seule, donc c'est en continu.
En introduction, nous avons passé un morceau des Rita Mitsuko, hein, c'est-à-dire...
La sorcière et l'inquisiteur.
Voilà, la sorcière et l'inquisiteur. C'est une chanson emblématique par rapport à ce que vous voulez proposer.
Elle est belle, elle est très belle parce que justement, en fait, elle part de la peur des hommes. C'est qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pourquoi on a fait taire les femmes et, enfin, il n'y a sûrement pas qu'une seule raison, mais en tout cas, ce qui est beau, c'est que cette femme est trop libre et trop belle, et que c'est parce qu'elle est désirable qu'elle fait peur. Et du coup, c'est toujours intéressant de se rappeler que c'était surtout une femme libre et désirable, et que c'est ça qu'à un moment donné, une classe dirigeante a voulu éteindre ou comprimer. Et que c'est l'endroit où, justement, on veut bien être féministe et dire, non, on va continuer d'être libre et désirable.
Et puis, surtout, ce qui est très intéressant, je pense que c'est dans les paroles de Catherine Ringer, c'est qu'elle décrit aussi l'inquisiteur comme quelqu'un qui était persuadé que exterminer les sorcières, c'était bien, c'était son droit. Et je pense qu'il y a cette relation entre l'inquisiteur et la sorcière où l'homme, à ce moment-là, était persuadé de faire bien les choses. Et du coup, elle place le bourreau dans un contexte aussi historique, particulier. Enfin, je trouve que c'est...
Oui, il est humain.
Il est à la fois humain et en même temps c'est complètement inhumain ce truc, mais il place vraiment, en tout cas, le bourreau et la victime dans une relation plutôt humaine, et voilà. Et ça, on pourra le cuter parce que c'est...
Non, mais il y a rapport à l'exécutant, et en fait c'est vrai que c'est aussi des choses qui... Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'être des exécutants. Moi, j'aime beaucoup Anna Arendt qui parle de ces gens qui obéissent, et quand des fois, enfin, il y a l'expérience toute con d'être dans le métro, de tomber sur un contrôleur qui te dit mais tu vois, j'ai pas le choix, c'est comme ça, faut piller ton billet. Et en fait, c'est insupportable parce que la société, elle se défait aussi comme ça, en fait, en disant que non, en fait, personne n'a exécuté cet ordre-là de demander à quelqu'un d'avoir 1,60€ sur lui pour se déplacer sur une longue distance. C'est un détail vraiment très bête et très concret, mais c'est de redire que juste en fait il faut des espaces et recréer des espaces qu'en fait on choisit d'être les exécutants d'un système, mais que ce système il se défera de la même façon, c'est-à-dire en arrêtant d'exécuter tout simplement, quoi, et de réfléchir par soi-même, de se réapproprier sa liberté, son libre arbitre et sa réflexion personnelle. Et que c'est aussi une des choses qu'on a envie de partager, de donner aux gens l'occasion d'avoir un peu de savoir sur les plantes pour avoir le choix de ne pas aller chez le docteur et se dire qu'il y a peut-être d'autres façons d'accéder à un bien-être. Ou...
Cette chanson, elle se penche aussi sur la nature, et elle reflète la forêt et la présence harmonieuse de la nature et de l'humain. Et c'est vraiment replacer cette nature au centre de nos vies.
Quelle est votre seconde proposition musicale pour cette émission?
Alors, c'est un morceau de Mansfield Tia qui s'appelle Bleu Lagon. Alors, nous, c'est un morceau qui nous a beaucoup fait danser et qui est très, très mignon et qui parle de lagon, de rouge sang. Et il y a des images comme ça très, très poétiques et plutôt floues, en fait. Et je pense que c'est ça qui plaît dans cette chanson et
qui donne
envie de danser.
Ça met du peps. On sait pas. On a des morceaux comme ça qui nous suivent des fois, qui nous ont. Bah, c'est aussi des souvenirs, c'est presque des cartes postales de moments. Hein. Parce qu'on a des morceaux même dont on aurait vraiment honte de partager avec les gens qui nous font beaucoup danser. Celui-là, ça va, on l'assume bien, puis il est beau.
La vulva DJ 7 bientôt platine.
Est-ce que vous avez la possibilité aujourd'hui de vous réapproprier votre corps, vous les femmes, pour vous soigner?
Alors en premier lieu, moi je dirais que c'est discuter beaucoup entre nous de nos problèmes gynéco, de nos manières de faire face à des choses. Et je crois que là où j'ai le plus appris, c'est avec des amis qui m'ont dit « Ah mais toi, là il se passe ça, ah moi aussi, ah mais moi c'est marrant quand j'ai un mec aussi, j'ai une vaginite » ou voilà, d'échanger en fait... C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment fondamental en fait de s'entraider comme ça et d'en parler et de trouver des solutions ensemble. Ensemble est très très important.
Parce que c'est pas facile de se retrouver dans un cabinet de médecin en frontal, dans une relation duel un petit peu, surtout avec les jambes écartées sur des étriers très froids. Et là, on proposerait plus quelque chose de chaud en fait, de joyeux, de commun, de où on supporte les unes les autres et on n'est plus petite victime allongée sur ce comment on appelle ça
ce lit.
Sur le lit, sur ce lit, ouais.
Et puis il y a une approche très symptomatique, alors que dans dans la vie, en fait, surtout les problèmes gynécologiques sont rarement juste symptomatiques. En fait, une vaginite, c'est souvent une réaction. Enfin, typiquement, un gynécologue ne nous demande jamais comment ça se passe dans cette relation, si on est content avec tout ce qui se passe dans le lit, si on. Enfin, ne nous pose pas de questions personnelles. Et en fait, la plupart du temps, la réaction corporelle va plutôt être liée à la relation avec la personne et pas tant. Enfin voilà, il va pouvoir guérir un symptôme de vaginite, mais en fait, il résoudra pas le problème et il passera à côté de tout ce qui fait qu'on en est là et à quel que voilà.
Tout ce qui est ordre émotionnel un petit peu.
Votre engagement féministe, du moins du collectif La Vulva, comment se traduit-il en dehors de ce spectacle? Vous proposez d'autres choses?
Alors on met en place des choses. Des balades commentées, comme on a dit, autour des plantes pour que les femmes puissent reconnaître, enfin les femmes, les hommes, tout le monde. Hein. Les quelques plantes médicinales, forcément en mettant l'appui sûrement sur celles qu'on connaît bien, qui sont vraiment très typiquement gynécologiques. Et donc les brochures. Là, donc, on a cette première brochure qui va sortir, qui parle des quelques problèmes qu'on va aborder, des problématiques plutôt que des problèmes qu'on va aborder dans le spectacle. Voilà. Ensuite, moi, j'aimerais travailler beaucoup sur les vieilles. Je trouve qu'il y a encore un grand tabou de la sexualité de la femme après 52 ans. Et je dis vraiment 52 parce que passé la ménopause, on trouve absolument rien sur ce qui se passe en bas pour les femmes. Et que du coup, j'ai vraiment envie d'aller questionner les femmes qui sont là autour de nous, qui ont vécu des avortements illégaux, qui ont vécu une contraception dissimulée et qui, je pense, ont un témoignage très, très important à recueillir. Et donc voilà, et je pense qu'ensuite, ça va aussi parler chacune de nos envies et de l'ethnobotanique qu'on a envie de développer, parce que c'est un peu ça, c'est le rapport des humains aux plantes. Elena, perte blanche.
Moi, c'est... Merci. Non, mais c'est vraiment... Je pense aussi au quotidien. Je pense qu'on se doit, en fait... Enfin, moi, en tout cas, je me dois de parler, en fait, de dire quand ça va pas. Et ça, c'est déjà... Enfin, ou de questionner des choses au quotidien, questionner des gens sur leurs attitudes, leurs actions. Pas forcément avec violence parfois. Enfin, c'est un truc... Parce que vraiment, la question, c'était du coup le féminisme au quotidien, si j'ai bien compris, enfin, en tout cas dans d'autres actions que ce spectacle. Et oui, en fait, je pense que j'essaye de me battre au quotidien pour être juste et voir les inégalités. Et quand je vois quelque chose, j'essaye d'intervenir. Et voilà, je crois qu'il y a aussi ces actions-là, en fait, de terrain qui sont importantes et qu'on fait toutes, qu'on essaye en tout cas voilà, de réagir au bon moment.
Moi, tu avais fait un fly pendant les manifs qui était chouette.
Ouais, aussi pour parler un petit peu voilà, dans des manifestations de gilets jaunes ou pas, ou marche sur le climat, voilà, d'essayer de faire un peu des flys aussi sur le genre, pour parler de ça un peu en manif, ce qui n'est pas forcément l'endroit où on parle de ce genre de choses. Voilà.
Et on parlait aussi de tout à l'heure, vous savez, parler d'exécuter des tâches dans la société, et c'est aussi. Se réapproprier son corps et son rythme et dire aussi qu'on n'est pas des robots et que la tâche à exécuter, elle n'est pas forcément facile dans toutes les périodes du mois et qu'à un moment donné, on a peut-être besoin d'un petit peu plus de repos, un petit peu plus de temps pour soi. Et c'est ça, en fait, s'écouter, écouter les autres femmes au sein de cette société un petit peu malade aussi.
Betsabé, tout à l'heure, tu parlais d'une rencontre prochainement de féministes.
Oui.
Tu peux peut-être en dire deux mots?
Oui, on est invité à un très beau festival le 25-26 mai à Montreuil, festival d'écoféminisme et sorcellerie, qui est un peu le début de l'histoire, parce qu'en fait, c'est un ami à nous qui organise ce festival, qui connaissait notre action, enfin, ou notre volonté de mettre en place... un peu plus d'action dans ce collectif de La Vulva et qui du coup nous a proposé d'intervenir et on s'est dit pourquoi pas une performance. Puis après ça nous a mis face à nos propres peurs d'écrire nos textes et là on n'est pas sorti de toutes nos peurs, mais en tout cas voilà, donc ça a été un peu le début de tout ça et voilà, là c'est un grand festival, il y a plein de belles choses qui sont proposées et voilà.
C'est un festival qui est organisé par le Théâtre de la Girandole, théâtre à Montreuil, et qui va se dérouler au Mur à Pêche. Mmh. Voilà, c'est une friche où des associations organisent des spectacles, des concerts, voilà.
Il y a un jardin médicinal, d'ailleurs. Mmh.
Le mouvement féministe, vous le situez comment actuellement dans le quotidien par rapport aux médias qui montrent de la provocation, je dirais, en considérant les fémènes, par exemple. Comment vous les situez, ces mouvements?
Bah, c'est assez maladroit. Enfin, maladroit.
Est-ce que vous vous reconnaissez avec ces mouvements, vous, bah, féministes?
Je crois qu'on n'a pas envie d'agir. Enfin, voilà, je pense qu'on n'est pas du tout. On n'a pas envie de se mettre seins nus et de scander des trucs comme ça dans la. Enfin, je crois que c'est pas trop notre envie là pour l'instant. Mais après, voilà, elles ont des actions. Moi, j'ai pas envie de juger leur action ni de voilà. Mais après, nous, notre endroit, c'est vraiment. Notre endroit de militantisme, il se retrouve dans échanger des savoirs. Donc nous, on apprenne des trucs des gens et que eux transmettent le leur. Donc du coup, je pense qu'on se situe pas tout à fait au même niveau de militantisme, mais
il y a des résonances. On s'est posé la question aussi avec les witch blocs, où du coup pouvait y avoir une espèce d'affinité, de se dire pourquoi pas sorcière, pourquoi pas féministe, pourquoi pas en colère. Mais en fait, c'est plus subtil que ça, et c'est vrai que nous, on est bien dans l'endroit qu'on s'est créé là pour l'instant, qui est un peu confortable, dans lequel on est bien, dans lequel on sait que on est efficace et que on est à l'écoute de nous-mêmes et de ce qu'on peut donner. Donc ça, pour l'instant, c'est notre endroit.
Le collectif La Vulva existe depuis combien de temps?
12 ans.
alors du coup, je pense qu'on peut dire qu'il existe informellement depuis quand même quelques mois. On avait décidé à la base avec Margot et Maïwenn, qui n'est pas là, mais qu'on embrasse très très fort et qui est à Lille en ce moment, sur un rond-point sûrement. Et voilà, donc on était toutes les trois, on avait envie d'écrire cette brochure, donc on a un peu bossé toutes les trois, et puis on a rencontré Betsabé qui est arrivée à la formation en septembre, et du coup voilà, on a
bossé à quatre.
On a bossé à quatre, du coup, et ça...
Et puis après on est parti en Corse, peut-être en Corse, qui a été le moment un peu plus... rassembleur et où... Mais moi, on avait dit avant déjà la vulva.
C'est relativement récent, mais voilà.
On parle du spectacle aussi, qui s'appelle comment?
Il s'appelle pas.
D'accord, pas c'est pas un spectacle.
C'est peut-être pas un spectacle, on sait pas encore en fait. Déjà, c'est la première fois qu'on va le montrer, donc ça sera peut-être aussi aux gens en face de nous dire ce qu'ils en pensent. On voulait pas faire un spectacle dans le sens où c'est pas quelque chose de distancié. C'est encore un peu compliqué pour nous, parce qu'on est quand même vraiment encore dans un travail de recherche, en fait, avec ça. Mais est-ce que c'est une performance? Est-ce qu'il faut la nommer? Ou est-ce que c'est juste une proposition de la vulva une façon comme une autre, de la même façon qu'on peut partir en manif, de la même façon qu'on peut faire d'autres choses? Qu'on nomme pas ses actions, qu'on met pas un titre sur le fait d'aller en manif. Bah, c'est peut-être une autre action, de la même façon qu'on a envie d'aller dans les prisons, qu'on a envie d'aller dans les squats, de distribuer des brochures, de la parole, de l'échange. Et que c'est pas des choses qu'on nomme, donc c'est des actions qui n'ont pas de nom, donc ça peut être juste une action.
Sans protocole. Voilà.
Et peut-être qu'elle sera mouvante et qu'on aura envie de parler d'autres plantes la prochaine fois, ou d'autres choses, ou d'autres femmes.
C'est un rendez-vous qui prendra combien de temps pour le spectateur?
A priori, une heure, a priori.
Une heure.
Il y aura aussi une petite discussion, je pense, après... Là, le but, c'est aussi, comme c'est la première fois qu'on va le montrer, d'avoir un peu des retours, des avis, et surtout de discuter autour d'une petite tisane.
Vous aurez toute une proposition d'arômes, de parfums, de tisane?
Alors, on va a priori avoir les plantes dont on va parler, pour les transmettre donc, aux personnes. Et voilà.
On n'en dira pas plus.
Voilà. Combien de plantes vous connaissez justement autour de ce sujet?
Oh là là.
Alors il y a connaître et connaître.
Ouais.
Non mais comme ça certainement.
Là on en cite 6.
6, oui. Mais sinon autrement il y en a des dizaines, des centaines peut-être.
Vraiment beaucoup,
même.
Beaucoup. Vraiment beaucoup. Ouais. En plus ça dépend de où encore. C'est ça l'histoire, c'est que là on regarde autour de nous. Mais on a très envie d'aller au Maroc, on en avait parlé, parce que là-bas, il y a aussi tout un savoir. Et qu'on a trouvé une femme qui a fait sa thèse sur la gynécologie en phytothérapie. Et qui a l'air d'avoir, du coup, toutes les connaissances des plantes locales là-bas, quoi. Donc c'est un échange qui est beau, parce qu'il va continuer avec le voyage. Et que nous, ça nous parle bien de voyage.
Et demain, donc, il y aura des dégustations de tisanes préparées avec certaines plantes, mais autre que la gynécologie, par exemple, pour les hommes, vous proposez quoi?
C'est séquoia géant.
Alors, du coup, on n'a pas du tout prévu, c'est vrai, comme on est sur le spectacle.
C'est de l'ortie. On peut leur donner de l'ortie.
On peut leur donner de l'ortie.
Les c'est racines, bien, c'est reminéralisant, c'est bon pour la prostate.
Oui, les racines d'ortie, c'est bon pour
la prostate. Le séquoia géant, sinon, vraiment, pour les glandes endocrinées masculines. mais on n'en a pas. Là,
sinon, ouais, on n'avait pas trop prévu de dégustation comme on
bon,
était.
Bon, ensuite, si c'est un échange, du coup, si madame va bien, monsieur.
C'est une bonne idée. Merci Yves.
Merci Yves, voilà, de nous avoir soumis l'idée.
J'ai toujours des bonnes idées. Et puis, vous êtes combien sur le plateau demain?
Trois, du coup.
Trois. Parce que habituellement, vous êtes quatre, si j'avais compris quelque chose.
Et on n'arrive pas encore à avoir l'habitude d'être quatre, ouais, malheureusement. Mais on aimerait bien. Mais...
C'est dur de synchroniser toutes les histoires.
D'ailleurs, chacune a des occupations propres, je suppose. Et qui lui prend du temps aussi.
Bien sûr. Oui.
Par exemple, Margot.
Non, c'est plus de la recherche, de plaisir en fait, de chaque jour. Chercher son rythme, chercher ce qui nous fait plaisir, ouais, c'est ça. Vraiment ce qui nous passionne, et puis tout le temps une réflexion dans le sens pour faire mieux en fait, pour aller mieux, pour faire mieux, pour être une meilleure version de soi-même au quotidien. Et ça prend du temps, et je pense qu'il y a beaucoup de gens sur cette planète qui devraient prendre ce temps. Et ça ferait évoluer les réflexions et ça irait beaucoup mieux, je pense.
Est-ce que c'est dur, justement, de pouvoir trouver son temps pour se ressourcer, en quelque sorte, aujourd'hui? Est-ce que c'est même plus facile?
En France, c'est particulier. Il y a plein de pays où ça ne posera pas de problème de s'allonger sur la plage pendant des heures et de discuter et de voir la beauté de la vie. Je pense qu'en France, on a beaucoup de culpabilisation par rapport à ça. Aussi, les gens ne savent pas s'ennuyer. C'est vraiment très dur de s'ennuyer, d'apprendre à s'ennuyer pour après aller se rechercher, d'aller vraiment en introspection, dans ses entrailles. Ça prend énormément de temps. C'est du travail, en fait. C'est ça, mon travail. Ça devrait être le travail de tous. Et en plus, ce mot-là, il est vraiment moche, quoi. C'est travail. C'est une activité. On cherche des activités de vie, des passions. Voilà.
Tu préfères labeur?
Non plus.
C'est encore pire.
Outil de torture.
Oui, et puis, comment outils dire, manger à la sueur de son front. Voilà, et compagnie. Et pareil, la question, je la repose aussi à Betsabé. Tu as d'autres activités en dehors de la vulva?
Enfin, une, mais qui est quand même très liée, que je fais aussi un peu quand j'en ai le temps, qui est de faire des soutiens-gorge et des culottes en tissu recyclé, sans perturbateur endocrinien, pour plusieurs raisons. Donc pour celle-là déjà, et puis aussi parce que je trouve que c'est une absurdité de produire dans ce monde. Et vraiment, je veux vraiment que récupérer. Tout est fait à partir de choses que je récupère, des foulards, des têtes d'oreiller, des housses de couette. Donc voilà, ça, quand de temps en temps, je fais ça.
Elle a un très beau métier aussi, c'est celui d'être maman, qui prend pas mal de temps.
Est-ce qu'on peut dire un métier de ça?
Je sais pas, je pense que c'est une bonne réflexion.
Et puis, Elena, donc, est-ce que tu aurais une activité annexe aussi qui t'a amené justement à ce collectif?
Alors moi, à la base, j'étais dans la photo. Donc, je fais de...
Comme photographe?
Alors, du coup, moi, je fais de la photo pour moi. J'ai toujours voulu faire de la photo pour moi. Et pour bouffer, je fais de la retouche photo en freelance. Ce qui ne me fait pas bander outre mesure. Mais voilà, j'ai besoin des fois de subvenir à mes besoins. C'est un temps que je réduis de plus en plus. Et voilà, je préfère effectivement prendre part aux actions du collectif, aller en manifestation pour d'autres raisons. Être active dans des collectifs parisiens comme la cantine des Pyrénées quand je peux, être volontaire là-bas. Voilà, j'essaie de diminuer au maximum le temps de travail, et enfin de
vrai travail, comme on dit. Voilà.
Un vrai travail, c'est quoi? C'est celui qui te nourrit?
Oui, non, voilà, c'était très ironique comme propos.
Et justement, est-ce que tu prends conscience, avec la retouche photo, tu retouches sûrement des silhouettes, non, des choses comme ça?
Je retouche plein de choses affreuses, plein de choses...
Beckham?
Pas Beckham. Ouais, non, je n'ai pas très envie d'en parler.
D'accord, mais c'était pour savoir si ça te permettait de prendre conscience, justement, de cette espèce d'enchaînement... corporel, du bien-être ou d'une présentation plutôt esthétique du corps?
En fait, la retouche photo, c'est un domaine qui est complètement malade. C'est-à-dire qu'on ne respecte aucune forme d'anatomie, aucune. qu'il y a des choses qu'on enlève, que les clients demandent d'enlever, comme ça, des os dans le genou, des grains de beauté, enfin des choses qui déshumanisent complètement. Et voilà, en fait, c'est complètement malade. C'est un milieu qui est complètement malade, où il y a des métiers, au final, qui ne servent à rien. Il y a une espèce de hiérarchie puante. En fait, c'est un grand théâtre. C'est un grand théâtre, et voilà.
Eh bien, l'émission touche à sa fin. Est-ce qu'on a fait le tour? Oui, vous avez tout dit.
On n'aura jamais fait le tour, je pense.
Non, il y a plein de sujets qu'on n'a pas abordés. Hein.
Bah merci surtout.
Merci beaucoup.
Oui.
Merci.
À toi, Yves.
Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous rappelle quand même, donc, Margot, Betsabé et Elena, que vous serez présentes toutes les trois ce mercredi 15 mai à 20h30 à la Forge d'Auguste pour nous présenter...
Un spectacle sans nom.
Oui.
Bonne soirée.
Merci.
Merci.